Cours de philosophie critique par le père Philippe à Saint-Jeudard, le 7 novembre 1991.
Le cours de critique, c'est pas toutes les semaines. Hélas, pourquoi la découverte du jugement d'existence est-elle une découverte métaphysique et non pas une découverte critique? Bon, on verra ça, pas tout de suite. Je comprends très bien que pour vous, actuellement, comprenez que le jugement d'existence, puisqu'il est premier, n'est pas critique. Tout ce qui est premier n'est pas critique. Critique toujours quelque chose de préexistant. Comment vous critiquez le néant? Alors allez-y. Il n'a ni queue ni tête. Il est comme des idoles. Il n'entend rien. On ne peut pas critiquer le néant. On critique une connaissance. On critique un acte d'amour. On critique un choix. On critique une idée, ça se critique. On critique toujours quelque chose qui est de l'ordre de notre vie spirituelle ou de notre vie affective. Et alors, si le jugement d'existence, nous le verrons en critique, je peux poser la question, puis-je critiquer le jugement d'existence? Et je vous dis non. Parce qu'il est premier. Alors s'il est second, c'est plus le jugement d'existence. Pourquoi dites-vous que si la critique est avant la métaphysique, alors nécessairement, on sous-entend que la métaphysique repose sur une idée et non sur la réalité? Parce que précisément, la critique repose toujours sur quelque chose d'antérieur. S'il y a quelque chose antérieur à l'expérience, c'est donc l'idée. Est-ce que l'expérience est première ou pas dans notre vie? C'est toute la grosse question. Alors là, je dirais c'est le bon sens. C'est le bon sens. Je ne crois pas que l'enfant dans le berceau a l'intuition de l'être. Je crois pas, moi. Je crois qu'il a tout simplement le désir du biberon. Alors évidemment, l'être est dans le biberon, c'est sûr. Mais le biberon, l'être est plus que le biberon. Et je comprends très bien ça, c'est sûr. C'est très difficile de bien comprendre ça parce qu'on est tous marqués par Kant. On est tous marqués par Descartes. Toute la philosophie de Descartes repose sur l'idée. Toute la philosophie de Suarez repose sur l'idée d'être. Toute la philosophie de Rosmini repose sur l'idée d'être. À Milan. On est très très marqué par ça. C'est depuis 4 siècles, on a ça sur le dos. Alors on est avec une idée première. Et la critique alors peut porter sur cette idée première, avant l'expérience. Mais je dis alors à ce moment-là, pratiquement, on n'entre jamais dans la vie spirituelle. On reste dans l'idée, l'idée artistique. Donc, imaginaire. Parce qu'on ne saisit pas dans l'idée artistique ce qu'il y a d'intellectuel. L'erreur de Kant, n'est-ce pas d'avoir confondu interrogation philosophique et hypothèse scientifique? Si oui, pouvez-vous préciser l'analogie? Interrogation, oui, nous le verrons en critique, ça. C'est vrai, il y a une analogie très intéressante à bien voir. c'est que les deux sont dans l'ordre du possible. L'hypothèse, c'est du possible. L'interrogation, c'est possible. Oui, c'est la signification. On décolle par rapport à l'expérience. Et on cherche la signification. Quelle est la signification de l'être? Qu'est-ce que ça signifie? L'être, qu'est-ce que c'est que l'être? Pas l'existence, puisque l'existence m'est donnée dans l'expérience. Donc j'ai pas besoin de poser l'existence de l'être. L'existence de l'être, je le constate tout le temps. Mais qu'est-ce que c'est que l'être dans cette existence? Oui. Donc c'est le problème de la signification. Et l'hypothèse, c'est le problème de la signification. Alors, je continue le cours de critique. Je vais aller assez vite parce que faut avancer. Donc, premier problème, la critique est-elle avant la métaphysique ou après? Alors, tout dépend de ce que vous mettez dans le sens critique. Si vous mettez lucidité réflexive sur mon activité intellectuelle, je dirais la critique est coextensible à toute ma vie intellectuelle. Le propre de l'intelligence, c'est d'être lucide et conscient. Je suis conscient de ce que je connais. Quand je fais des mathématiques, je sais que je fais des mathématiques. Normalement, si vous ne le savez plus, ça devient dangereux. Mais normalement, vous le savez. Vous savez que vous faites des mathématiques. Quand je fais de la science, je sais. Quand je fais de la philosophie, si j'ai compris, je sais que je fais de la philosophie. Quand je fais de la métaphysique, je sais que je fais de la métaphysique. Quand j'ai compris. C'est-à-dire quand j'y suis. Si je ne suis pas encore, j'aspire à faire de la métaphysique. Je cherche à faire de la métaphysique. C'est très bien ce désir. Tout ce qui est spirituel est lucide. Une lucidité. C'est le propre du spirituel. La critique, c'est la réflexion au carré. C'est-à-dire que l'objet de la critique m'est donné dans une réflexion. Et pas avant la réflexion. Et je réfléchis sur quelque chose que je connais, que j'ai déjà atteint. Quelque chose que j'aime. Autrement, vous réfléchissez sur quoi? Sur rien. J'ai tellement peur de connaître et de tomber dans l'erreur que j'aime mieux suspendre mon jugement. Oui, ça c'est la panique universelle. Lucerne. Je suspends. Je mets entre parenthèses l'être. Vous savez, c'est assez affolant, hein, quand on y pense vraiment, de faire une philosophie en mettant entre parenthèses l'être. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous faites une philosophie des possibles. C'est tout. Si vous mettez entre parenthèses l'être, je veux pas savoir si ça existe ou ça n'existe pas. Et la philosophie commence par là. Donc, au fond, vous voulez faire une philosophie des possibles. Et faire la philosophie des possibles, on peut critiquer les possibles, mais il faut les connaître avant. Donc, il me semble, c'est assez facile de comprendre que Kant ne comprend pas ce que c'est que la connaissance de la réalité pour pouvoir dire que la critique est avant. Alors n'oublions pas que Kant peut mettre la critique avant. Pourquoi? Parce que il y a les formes a priori transcendantes. Et tout repose sur ces formes a priori transcendantales. Donc les idées innées. Et tout repose sur ces idées innées. Alors, je comprends très bien. S'il y a des idées innées, je peux me poser la question, quelle est la signification de ces idées innées? Alors, la critique est faite pour saisir la signification de ses formes a priori transcendantales et le concret qui m'est donné dans l'expérience, c'est ce rapport entre les deux. Donc elle est antérieure à la métaphysique. Donc première chose qu'il faut essayer de comprendre, que la critique est seconde. Deuxièmement, je critique tout ce qui est connaissable. Le domaine, alors, je réfléchis sur tout ce qui est connu. Le connaissable pouvant être connu. Et je vois que le domaine du connu est extrêmement vaste. Alors, je préfère l'idée ici avec vous. C'est facile à faire, ça. Une petite réflexion philosophique. Tout ce qui est connu. Faites le point de vos connaissances. J'ai des connaissances expérimentales. J'ai des connaissances mathématiques. On a tous un peu de connaissances mathématiques. Tous. J'ai des connaissances scientifiques. J'ai des connaissances philosophiques. Un tout petit peu. Je commence. Point de vue éthique, oui, je comprends, comprends. Je comprends. J'ai des intentions de vie. J'ai des petits bouts embryonnaires de vertu. Ça tient pas très bien la route, mais ça crève assez facilement. Mais ça veut rien. On n'est pas encore là à l'état de pneu crevable. Mais ça viendra. La vertu. Je comprends que tout ça, ça fait partie de mes connaissances. J'ai des connaissances artistiques. Il y a un domaine du possible. Puis je rêve. Domaine imaginatif. Je rêve. Puis-je faire la critique de mes rêves? Domaine extraordinairement vaste. Qu'est-ce qui est dans ce domaine du connu, du vécu, le vécu, mon vécu actuel? Faites ça, chacun d'entre vous. 5 minutes de méditation philosophique. Votre vécu intellectuel, ça durera plus de 5 minutes, parce que quand même, là vous mettez tout votre vécu. Faut le faire soi-même, ça. Si on ne le fait pas soi-même, je ne peux pas le faire pour vous, ça. Je vous dis, faites-le. Votre vécu intellectuel. Votre vécu affectif. Vos répulsions affectives. Ah, j'ai horreur de ça. C'est du vécu. J'ai horreur. Vous réfléchissez sur le vécu et vous dites, qu'est-ce qui est critiquable dans ce vécu? Est-ce que je peux critiquer mes rêves? Je commence par là, c'est très simple. Non, je ne peux pas les critiquer. Je peux les décrire. Mais je ne peux pas les critiquer, c'est un donné. C'est un donné. Je peux essayer de saisir d'où ça vient, ensuite. D'où ça vient. Vous voyez, c'est très amusant. Quand il s'agit de l'imagination, on se pose tout de suite la question d'où ça vient. Comment ça se fait-il qu'ayant mangé hier au soir un pâté délicieux, un pâté de foie gras, j'ai rêvé la nuit des cauchemars effrayants. Ah, je donc dis, il y a une digestion difficile à faire, tandis que j'ai jeûné. Oh, est-ce que j'ai dormi? J'ai bien dormi. Mais si j'ai trop faim, je me suis réveillé avec un cauchemar effrayant. Ah, j'étais suspendu, il y avait un plat extraordinairement mal. Et puis, celui de Thalès, c'est impossible, vous pouvez pas manger. Impossible de manger. J'ai rêvé à ça. Heureusement, j'allais mourir, je me suis réveillé. J'ai fait l'expérience de la résurrection. Je peux décrire mes rêves, je peux essayer de chercher d'où ça vient. Je ne saurai jamais exactement. Je ne saurai jamais exactement d'où ça vient. Je peux interpréter mes rêves, mais au nom de quoi? Au nom d'une symbolique. Mais cette symbolique, sur quoi ça repose? aux sorciers. Il y a des gens qui rêvent aux curés. Il y a des rêves. Et aux anges. Parce qu'aux anges, on rêve de temps en temps. On plane. C'est extraordinaire. Plus aucun obstacle. Et je suis dans une auto angélique. Alors il y a une queue énorme. Je vole au-dessus. Bon. Vous voyez, les rêves, ça ne se critique pas. Je commence à rêver. Ah, ça ne se critique pas les rêves. Je commence à critiquer lorsque l'intelligence apparaît. C'est tout le domaine de l'intelligence. Mes sensations, je ne peux pas les critiquer. Donc là, il y a un premier problème intéressant. Il faut se poser la question. Mes états affectifs. Ce matin, me suis levé de mauvaise humeur. Un état affectif. Je me suis levé de mauvaise humeur. Je sais pas pourquoi, mais. Puis ça a duré jusqu'à 10h du matin. Puis le soleil s'est levé. Ça a été à peu près bon. Mais je suis resté en brouillard jusque-là. L'état affectif non plus. Seule la connaissance intellectuelle qui implique une réflexion. La condition sine qua non pour que la critique existe, c'est qu'il y ait possibilité de réflexion. Et donc, il y a une première réflexion dans l'acte même de connaissance. Je crois que c'est la condition sine qua non. Donc, c'est le fondement de la critique. Tout ce qui est conscient dans ma connaissance, je peux le critiquer. Mais ce qui est inconscient, alors c'est très intéressant quand vous êtes avec un psychanalyste freudien de demander quel est l'objet exact de votre science freudienne. Y a-t-il une science freudienne? Ils disent qu'il y a une science. Je crois qu'il n'y a pas de science freudienne. Alors ils disent l'inconscient. Mais l'inconscient, vous n'avez pas conscience. Est-ce que c'est critiquable l'inconscient? Vous voyez, tout de suite le problème qui se pose. Est-ce que c'est critiquable? Et quand vous êtes devant un psychanalyste freudien qui dit que c'est que l'objet propre de la science psychanalytique, c'est l'inconscient. Mais dites, l'inconscient, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'inconscient? Ils ne pourront jamais le définir. Il n'y a pas de toti eneinein de l'inconscient. Il n'y a pas de quidité de l'inconscient. Il n'y a pas d'intelligibilité de l'inconscient. On vous donnera des tas d'exemples. Des tas d'exemples. Vous savez pas ce que c'est. L'inconscient. Par définition, vous savez pas ce que c'est. Donc, je crois qu'on peut dire, vous voyez, ça c'est la première chose à préciser, je crois qu'on peut dire, est critiquable tout ce qui est connu dont j'ai la conscience. J'ai la conscience que je connais. Un mathématicien sait que c'est mathématique, il a conscience de poser une connaissance mathématique. Vous ne lui direz jamais, c'est votre inconscient qui est mathématique. Est-ce qu'on a un inconscient mathématique? Est-ce qu'on a un inconscient biologique, de la science biologique? Est-ce que vous avez un inconscient métaphysique? Non. L'inconscient est neutre. Parce qu'il n'a pas de quidité. Je ne dis pas que la neutralité est l'inconscient. Hein? Non. Mais je dis que l'inconscient est neutre. Il n'y a pas de quantité. Il est tout à dire relatif à autre chose. C'est un être de raison, l'inconscient. Il est relatif à. Donc je peux dire que la critique, vous voyez, je fais la critique de la critique là. La condition sine qua non pour qu'il y ait critique, c'est qu'il y ait un acte conscient. Ce qui montre bien, là encore, vous voyez, que la critique est toujours seconde. Et que je ne peux pas tout critiquer. Tandis que la philosophie regarde tout ce qui existe. Je ne dis pas que tout ce qui existe est critiquable. Non. Un petit caillou existe. Est-ce que le caillou est critiquable? Mais non. La connaissance que vous avez du caillou est critiquable. Mais pas le petit caillou. Pauvre petit. Thank you. a cette forme, mais n'en peut rien. Mais votre connaissance du caillou est critiquable. Si vous avez connaissance consciente de ce caillou. Alors, tout le domaine conscience et tout le domaine des sciences, qu'est-ce qui sera premièrement critiquable? Alors, faut d'abord chercher là la critique. Essaie de montrer le fondement premier, l'élément premier de ma connaissance, pour voir si cet élément permet de construire tout l'édifice de ma connaissance. Fondement des sciences, fondement des mathématiques, fondement de la philosophie, c'est ça. Méthode archéologique. La critique est une méthode archéologique. Et dans la méthode archéologique, je cherche la pierre fondamentale sur laquelle tout l'édifice va reposer. Et qui me permettra de comprendre tout le reste. C'est le propre de la critique. Et je cherche donc le comment, pas le pourquoi, pas la finalité, le fondement, qui est un comment. Comment tout l'édifice tient-il? Comment tout l'édifice de ma connaissance peut tenir. Parmi mes connaissances, il y a des quantités de connaissances que je n'ai pas critiquées. Je les ai reçues. Je les ai reçues. Ça repose donc sur la foi, l'opinion que j'ai eue dans ce maître qui m'a enseigné. Ça repose donc sur l'autorité. Et comme dit Thomas d'Aquin, l'autorité en philosophie, c'est la dernière des raisons. C'est le refuge. Je me réfugie quand je ne sais plus sur l'autorité. On m'a dit ça. Aristote dit ça. C'est le refuge des pécheurs. Platon dit ça. C'est le refuge des pécheurs. Alors ça dépend quel refuge. Il y en a, c'est Platon, d'autres c'est Aristote, d'autres c'est Heidegger, d'autres c'est Husserl. Chacun a son petit refuge. Et progressivement, on ne doit plus avoir de refuge pour que tout soit limpide. Parce que le refuge, par définition, est souterrain. C'est l'autorité. Et l'autorité, au point de vue intellectuel, n'est jamais très, très limpide. L'autorité, c'est volontaire. C'est un service. Alors, je vois qu'il y a des zones différentes d'intelligibilité dans ce que je connais. Il y a des zones. Il y a les démonstrations, les argumentations. C'est ce qu'il y a de plus vaste, quantitativement. Toutes les sciences reposent sur des argumentations. Des argumentations qui reposent sur des principes, des argumentations qui reposent sur des opinions, des argumentations qui reposent sur des traditions, des argumentations qui reposent sur des a priori. C'est très intéressant de voir ça. Mais c'est pas premier. Toute argumentation repose sur quelque chose qui est premier. Sur des jugements. Donc, je vois tout de suite qu'une critique qui veut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire saisir le fondement de toute ma connaissance intellectuelle et scientifique, ma critique va regarder le jugement. Ça, je crois qu'on peut tous saisir ça assez vite. Le jugement, en grec, krinein, c'est ce qui fait le discernement. Alors, je me pose la question maintenant. Quel est le premier des jugements sur lequel repose tout l'édifice? Comme c'est intéressant. La pierre première. Ça ne peut pas être le raisonnement, puisque tout raisonnement présuppose autre chose. Le raisonnement est toujours quelque chose de relatif à quelque chose antérieur. Tous les raisonnements, tous, absolument tous. Alors, tandis que le jugement, ah, c'est autre chose. Il m'apparaît comme premier. Il m'apparaît comme premier. Mais les jugements sont extrêmement nombreux. J'estime cela beaucoup. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Allez, regardez toutes les réclames. C'est des chemins de valeur. Le meilleur de... Enfin, si, rien n'est comparable. Hein. Si vous voulez, allez vite, prenez le TGV. Il n'y a rien de plus sûr. Hein. Vous déposez votre auto, point de départ, vous prenez le TGV, vous retrouvez l'auto. Après, non. C'est le, pour la rapidité. Non, de la rapidité, la vitesse. Et ainsi de suite, on part des jugements de valeur. Puis il y a des jugements dits scientifiques. Ah, le jugement scientifique apparaît comme ce qu'il y a de mieux. C'est vrai, tous les autres points de vue intellectuels, c'est un jugement parfait. Alors vous avez un jugement de conclusion scientifique. Et le jugement de conclusion scientifique repose sur un jugement de principe. Toute démonstration implique quelque chose d'antérieur à la conclusion. Donc le jugement scientifique n'est pas premier au plan critique. Il faut découvrir un jugement antérieur au jugement scientifique. Et le jugement antérieur au jugement scientifique, c'est la saisie des axiomes, des principes, des hypothèses, tout ce qui est antérieur. Alors parmi ces jugements premiers, évidents ou présupposés évidents, acceptés comme évidents, ce à partir de quoi je pourrais raisonner. Je découvre que le jugement premier, c'est le jugement d'existence. Ceci est. Mais on va retrouver la question de tout à l'heure. Ceci est. C'est le premier jugement. Alors là, oui, c'est très important et très intéressant de bien saisir que ce jugement, ceci est, est le premier jugement au point de vue critique. Autrement dit, ce jugement, ceci est, est au-delà de la critique. Mais toute la critique va reposer là-dessus. Donc c'est le fondement. Le fondement de toute la critique. Ceci est. Pour le moment, hein, pour le moment. On verra que c'est pas encore le fondement. Mais c'est quand même le fondement premier que je saisis. Premier fondement que je saisis, c'est ceci est. Pourquoi ? Parce que c'est le jugement le plus simple. Tous les jugements qui portent sur le possible, donc les jugements hypothétiques, il est possible que, sont des jugements, comme on dit, modaux. Donc ils sont complexes. Parce que le possible, je ne peux l'élaborer qu'à partir de quelque chose qui est. Alors là, évidemment, c'est pas si commode que ça à bien comprendre. Tout jugement hypothétique qui porte sur le possible est second. Toujours. Pourquoi ? Parce que la connaissance du possible n'est jamais première. Je peux dire ça grâce à la métaphysique de l'acte et de la puissance. Nous le verrons. Je peux dire ça par mode d'expérience. Étudiez tous les jugements hypothétiques que vous posez. Il est possible que aujourd'hui il fasse beau. Vous dites ça parce que hier il faisait beau. Si hier il faisait pas beau, jamais vous auriez dit il est pas, je souhaite qu'aujourd'hui il fait beau. Il est possible qu'aujourd'hui il fasse beau. Oui, l'intelligence découvre en premier lieu la réalité qui est, qui existe. Et à partir de là, elle voit les possibilités de réalisation de ce qui est. Donc, tout jugement possible est toujours second. Par le fait même, c'est bien le jugement d'existence qui est premier. développer ça qu'en regardant les relations entre le possible et l'acte. Et réfléchissez bien, dès que vous parlez d'une réalité possible, c'est que vous avez eu une expérience de quelque chose qui est en acte. Avant. C'est dans ce sens-là que les mathématiques elles-mêmes, avec leur hypothèse, reposent quand même sur une première expérience de la réalité fondamentale. Mais l'arithmétique, un caillou plus un caillou, ça fait deux cailloux. Il y a eu d'abord un caillou. Il y en a compté par les petits cailloux. C'est comme ça que
ceci.
deux éléments. Ceci est. Donc il y a deux éléments. S'il y a deux éléments, je ne peux pas considérer que le chemin d'existence est premier dans l'ordre critique de ma vie intellectuelle. Il y a deux éléments. De plus, je m'aperçois que ceci est. Peut-être aussi ceci n'est pas. Donc il y a affirmation. Il y a négation. À l'intérieur du jugement. S'il y a affirmation et négation à l'intérieur du jugement, le jugement n'est donc pas l'opération première. Elle implique dans sa structure même une dualité. Le jugement implique une dualité dans sa structure. Vous voyez, le jugement affirmatif apparaît complexe. Ceci est deux éléments. Et à l'intérieur du jugement, je vois la complexité d'affirmation et négation. Je poserai la question ensuite. Qu'est-ce qui est premier, l'affirmation ou la négation? Mais maintenant, je creuse. Je vois que je ne peux pas m'arrêter au jugement. C'est ça qui est important. Je dois aller plus loin que le jugement. Même ce jugement très simple, ceci est. Alors voyez comme c'est intéressant. Ceci est et point de départ de toute la métaphysique. Et la critique creuse plus loin que la métaphysique. Ah, ça c'est très intéressant. Parce que ça fait comprendre pourquoi on considère que la critique va plus loin que la métaphysique. Vous voyez? Parce que ça creuse plus. Dans toute erreur, il y a quelque chose de juste. Dans toute erreur, il y a quelque chose de juste. Mais ce quelque chose de juste n'est pas bien vu. Il est vu d'une manière telle qu'on glisse. On fait à partie le tout. Mais quand Kant affirme que la critique est antérieure à la métaphysique, quand tous ceux qui suivent Kant disent que la critique est antérieure à la métaphysique, il y a quelque chose de juste. Massivement, c'est faux. Mais il y a quelque chose de juste. Petite paillette de vérité. Alors, je la saisis maintenant. En voyant que le jugement d'existence est premier pour toute la philosophie. Et pour la métaphysique. Ceci est. Je ne peux pas aller plus loin. En critique, je vais plus loin. En critique, je ne m'arrête pas au jugement d'existence. Mais je suis en critique. Je dis que avant le jugement d'existence, il y a quelque chose. Il y a une connaissance simple qui saisit les deux éléments de l'affirmation. Puisque l'affirmation est quelque chose de complexe. Je saisis deux éléments, le ceci et est. Alors, quelle est cette opération antérieure au jugement? C'est ça l'intérêt. Quelle est cette opération antérieure au jugement? Cette opération antérieure au jugement, c'est ce qu'on va appeler, c'est ce qu'on a appelé l'appréhension. Qui saisit quelque chose de simple. Quand je dis blanc, il y a une signification blanc. Blanc a un sens. Je peux très bien saisir blanc. Sans saisir, ce mur est blanc. Avant de dire ce mur est blanc, j'ai saisi blanc. Avant de dire ceci est, j'ai saisi ceci. Alors comment je saisis ceci? Avant de saisir est, j'ai saisi est. Il y a donc quelque chose antérieur au jugement. Dans l'analyse critique, je vois qu'il y a quelque chose d'antérieur au jugement. Ceci est. Il y a l'intelligence qui saisit la détermination première dans l'ordre de l'intelligibilité. c'est la journée du Dottie NI9. Le Dottie NI9, la quiddité, c'est la première chose que je saisis dans l'ordre de l'intelligible. L'appréhension saisit la réalité en temps. Point de vue critique. Il y a quelque chose d'élémentaire.